inconscient. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre l'Asie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Voilà, vous êtes à l'écoute de Radio Cagnot, la plus rebelle des radios. Il est 19h, passé de 2 minutes un petit peu plus sur la pendule qui avance de la plus rebelle des radios, alors que Delphine rentre en courant dans les studios. Donc voilà, l'équipe du Cagnot Info, Delphine et Laurent pour ce soir. Delphine va nous faire un petit déroulé de ce qu'il va y avoir dans le contenu de ce Cagnot Info.
Et oui, bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous allons parler d'abord de grève. On va revenir sur les violences policières, la manifestation des agents de la métropole de Lyon. On parlera de Radio France, France Télé. Nous aurons ensuite notre chronique Au diable Dieu. Nous parlerons d'écrivaines, nous irons aux Philippines, on parlera d'Arabie Saoudite, du Yémen. Laurent nous parlera de Big Brother ce soir, on parlera de liberté individuelle. Je parlerai moi de Madame Pellerin. Vous savez, c'est notre ministre de la Culture. Nous parlons en fait photo, hein, et puis musée avec elle. Nous irons voir ce qui se passe dans les prisons israéliennes. Nous parlons d'un navire poubelle qui se balade en ce moment. Nous aurons un petit point nucléaire et puis un dernier petit point, si nous avons le temps, un peu plus vert fluo.
Et un agenda.
Et un agenda, bien évidemment.
On ouvre avec les suites donc de la grève des agents de Lyon Métropole, suite à la création de cette métropole et à son chef monarque absolu qui est Gérard Collomb. Donc je vous refais pas tout l'historique. Hein. Hier soir, le Cagnot Info est bien revenu dessus. Juste pour dire que hier, il n'avait pas l'info, donc je peux la donner. Une délégation a bien été reçue par Gérard Collomb, donc une délégation de l'intersyndicale. Les témoignages racontent quand même qu'il était toujours ultra méprisant. Il n'a rien lâché et un nouveau rendez-vous est prévu d'ici une quinzaine de jours. Il faut savoir que pour les 20 délégués syndicaux reçus hier par Gérard Collomb, lui-même avait fait venir sa propre délégation de 20 quarts de CRS. Ah bah pour 20 délégués syndicaux, ça rigole pas. Le dialogue social façon Gérard Collomb, c'est le dialogue de la matraque, de la flicaille, des hommes en bleu, de la pression. On est très très loin de la démocratie sociale vantée par le Parti Socialiste. En même temps, lui, il est presque à l'extrême droite du Parti Socialiste. Déjà, Gérard Collomb, en tout cas, il est dans la frange la plus à droite. Donc l'extrême droite du Parti Socialiste, effectivement, je pense qu'il est le moins à gauche dans ce parti qu'il est déjà pas beaucoup. Donc un nouveau préavis de grève a été déposé, reconductible jusqu'à fin juin pour protéger les salariés qui continueraient à faire grève. Suite aux violences policières, deux manifestants vont comparaître, ce sera le 4 octobre, en correctionnel, hein, pour les violences. Aucun flic n'est pour l'instant poursuivi, puisqu'il y a eu deux blessés chez les flics et deux blessés chez les manifestants. La justice a l'air de vouloir s'intéresser que aux flics blessés. Une nouvelle discrimination de la justice, mais ça on a l'habitude par rapport aux violences policières. Les manifestants et leurs syndicats ont quand même demandé à visualiser les bandes de la vidéosurveillance. De trouver des preuves pour démontrer que les militants, les manifestants, les grévistes n'étaient pas violents contre la répression policière. Voilà, affaire à suivre, on en reparlera quand on aura des nouvelles.
Alors oui, moi je voulais revenir sur ces grèves dans nos médias publics, hein, parce qu'alors quand même entre Radio France et France Télévisions, les grèves se poursuivent. Alors moi j'ai choisi aujourd'hui de vous lire le communiqué, oui je vais vous le lire en entier, des sociétés de producteurs de France Culture, France Inter et France Musique. Si j'ai choisi ce texte, c'est parce que je trouve qu'il rassemble bien le pourquoi du comment et on en est arrivé là. Je vous propose donc de vous lire cette lettre ouverte aux auditeurs de Radio France par les sociétés de producteurs de France Culture, France Inter et France Musique. Nous sommes les voix qui chaque jour s'adressent à vos oreilles. À travers nos émissions, nos interviews, chroniques, reportages, documentaires, nous tentons au mieux de faire vivre les missions de la radio publique, informer, éduquer, divertir. Nous, équipe de production des émissions de Radio France, animateurs, reporters, collaborateurs, chroniqueurs, partageons les inquiétudes de l'ensemble des personnels de Radio France mobilisés depuis le 19 mars. Ce mouvement de grève a pour objet de défendre les radios de service public et non des intérêts particuliers ou corporatistes. L'engagement budgétaire non tenu par l'État entraîne aujourd'hui un déficit grave qui menace l'existence de la radio telle que vous l'aimez et que vous la financez à travers la redevance audiovisuelle. Nous sommes consternés de voir les travaux de rénovation de la maison de la radio si mal encadrés et si mal gérés, occasionnant le surcoût exorbitant que vous connaissez. Vos impôts, vos programmes et vos oreilles doivent-ils payer pour cette incompétence ? Le service public n'a ni la vocation ni la possibilité d'être rentable. Or cela semble être aujourd'hui la logique insidieuse de la présidence de Radio France et au-delà celle de sa tutelle, le ministère de la Culture. Et l'hypocrisie jusqu'à présent de la tutelle, ministre de la Culture, semble accréditer une telle logique. Conscient du contexte de crise économique et des efforts nécessaires, nous soulignons que de lourds sacrifices ont déjà été réalisés. En témoigne la baisse de 85 millions d'euros du budget entre 2010 et 2014. Une idée fausse voudrait que Radio France soit un lieu de gabégie, de privilèges et d'intérêts corporatistes. Savez-vous pourtant que la majorité des voix que vous entendez quotidiennement travaillent dans le cadre de contrats saisonniers et précaires ? Comment continuer à produire de la radio de qualité quand les moyens matériels, studios, salles de montage, camions régie sont constamment reniés ? Comment faire entendre les réalités d'un pays quand la plupart des émissions ne peuvent plus, faute de budget, envoyer des reporters au-delà du périphérique parisien ? Comment conserver notre indépendance, celle à laquelle vous avez droit, quand se multiplient sur les antennes des partenariats ou des publicités plus ou moins déguisées ? Si l'on suit la logique actuelle, la radio de demain, ce sera moins de reportages, moins de documentaires, moins de débats vraiment critiques, moins de concerts. Bref, une radio standardisée, calquée sur l'actualité ou sur les goûts majoritaires, une radio au rabais. Nous aimons passionnément nos métiers et au nom de la confiance que vous nous témoignez, nous efforçons de travailler avec le plus de sérieux et d'esprit de responsabilité. Toutefois, dans ce climat de travail en constante détérioration, nous estimons de notre devoir de vous informer des risques qui pèsent sur la radio publique française. Voilà, alors c'est un des nombreux communiqués qu'on a pu avoir ces derniers jours. C'est une grève qui s'est amplifiée. Hein, il faut dire qu'avec les dernières révélations...
Oui, hier, le Canard Enchaîné a révélé qu'il y avait encore un scandale, puisque le président de Radio France a dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour embaucher quelqu'un pour faire sa promotion, un publicitaire. Dans cette période de crise, c'est quand même ultra méprisant pour ceux qui vont perdre leur emploi, parce qu'il y a quand même ça derrière, hein, des suppressions de postes. Vraisemblablement, lui vit dans son monde doré et qui est très très loin des réalités. Et ça l'a rattrapé. Bon, on donnera les infos dans les semaines qui viennent sur l'aboutissement de leurs revendications. En tout cas, pour l'instant, ils sont toujours en grève.
Et alors, nous partons maintenant au Yémen.
Le Canu Info, Radio Canu.
Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu.
Oui, au Yémen, pour cette rubrique Au Diable 2, nous allons parler des actualités en lien avec la religion ou l'instrumentalisation de la religion. Donc on part au Yémen, puisque une nouvelle guerre de religion, enfin une nouvelle guerre, la suite de la guerre sunnite-chiite fait rage au Yémen avec aujourd'hui l'intervention de l'Arabie Saoudite, alors qui intervenait déjà mais pas aussi fortement, puisque là il y a une vraie intervention officielle militaire de l'Arabie Saoudite qui a été déclenchée donc cette nuit avec des frappes aérienne contre ces fameux opposants Houthis. L'Arabie Saoudite a mobilisé 150 000 militaires sans avions de combat, aidés par les Émirats Arabes Unis qui ont engagé 30 avions de combat, le Bahreïn et le Koweït 15 avions chacun, le Qatar 10. Ils ont le soutien de l'Égypte, de la Jordanie, du Soudan, du Pakistan et du Maroc. plus un soutien symbolique des États-Unis d'Amérique. C'est John Kerry qui s'est exprimé. Notamment la France aussi. Alors, contrairement à l'Europe, hein, qui n'a pas soutenu cette intervention, la France l'a fait en rappelant son soutien au président Abd Rabo Mansour Hadi, qui n'est pas super aimé dans son pays, mais qui est quand même le dernier président élu hein, du Yémen quand le Yémen existait vraiment, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Bien évidemment, dans cette guerre sunnite-chiite, avec hein, une instrumentalisation de la religion, mais c'est quand même le premier motif. Il y a aussi l'envie d'un bout de territoire. Il y a toujours des enjeux terrestres, matériels avec. On notera quand même dans les opposants traditionnels, ben c'est l'Iran qui a fait part de son mécontentement de l'intervention de l'Arabie Saoudite. Alors, il faut savoir quand même que finalement, au Yémen, ça ressemble à la guerre froide hein, qu'on avait en Europe. C'est-à-dire, on avait une opposition, une guerre larvée, froide et quelquefois chaude, d'ailleurs, entre les États-Unis et l'URSS, et qu'on trouvait un autre terrain pour faire la guerre. Hein, on a eu Cuba, d'ailleurs, on a eu des choses comme ça pendant cette période-là. Et ben là, il est en train de se passer la même chose dans cette région, qui s'embrasse quand même. Mais le Yémen, c'est une guerre, quelque part, Iran-Arabie Saoudite, qui se passe au Yémen, hein, avec tout le monde instrumentalisé, avec deux puissances fortes militairement et financièrement pour l'Arabie Saoudite, et fortes historiquement et culturellement pour l'Iran. Bien évidemment, le Hezbollah du Liban a fait une déclaration en soutenant l'Iran et en condamnant l'Arabie Saoudite. Hein, on sait très bien qu'ils sont alliés. Alors, pour rappeler et résumer un petit peu la situation, pour ceux qui sont un peu perdus au Yémen, tout a commencé à dégénérer en 2011. Hein, jusqu'à 2011, c'était un régime totalitaire assez dur. Finalement, il ne se passait pas grand-chose. Donc, dans le sillage du printemps arabe, le président Ali Abdallah Saleh a été poussé hors du pouvoir. Depuis 2011 et plutôt depuis ces deux dernières années, la puissante milice des Houthis a pris le pouvoir. Alors, pas de partout, mais notamment dans le nord du pays, ils ont commencé à mobiliser une grande partie des Houthis. Alors, faut savoir qu'ils représentent quand même une bonne partie de la population, entre 25 et 30% de la population du Yémen. Ils sont donc considérés comme chiites, parce que alors la communauté, c'est la communauté zaïdite, qui est une branche du chiisme. C'est un peu compliqué, parce qu'il y a des branches et des sous-branches. C'est compliqué, parce que je ne connais pas bien. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est pas plus compliqué que le reste. Donc voilà, eux, grosso modo, ça fait un an qu'ils ont pris Sanaa, pas tout à fait un an, c'est septembre 2014, mais ça fait un an qu'ils sont vraiment très très actifs et qu'ils ont poussé le dirigeant élu un petit peu hors de son territoire, enfin d'une partie du territoire. Là-dessus se rajoute l'ancien président Saleh, qui lui a mal vécu quand même de s'être fait virer du pouvoir. Pourtant, il s'est bien accroché. Hein. Mais effectivement, il a été viré par des opposants de sunnites et chiites au départ. Après, l'instrumentalisation est arrivée et c'était plus chiite. Mais effectivement, au début, il y avait un petit peu les deux. C'était dans le sillage des printemps arabes. Il a été remplacé démocratiquement hein, par Monsieur Mansour Hadi. Et il a toujours mal vécu cette expulsion. Il est quand même assez vieux, 113 ans, très très riche. Et donc, il a encore plein d'amis, notamment au sein des forces armées, et il essaye, à travers ce mouvement, cette milice des Houthis, de reprendre le pouvoir, parce qu'il est derrière tout ça. Hein. Il les soutient, il les aide, il y a même une partie des forces armées du Yémen hein, qui sont du côté des Houthis, parce qu'ils ont eu l'ordre de Saleh, et ils l'écoutent encore, d'aller combattre de ce côté-là. Là-dessus se rajoutent Al-Qaïda et l'État islamique. Alors l'État islamique, c'est assez récent, hein, l'arrivée de l'État islamique, mais on se rappelle qu'ils ont fait un gros attentat dans des mosquées le 20 mars, donc la semaine dernière, avec 142 morts, hein, quand même énorme. Donc eux, ils sont, pareil, dans la lutte pour déstabiliser le pays et eux, ils sont sunnites, donc ils sont contre la milice Houthis qui est là, mais ils sont aussi contre l'Arabie Saoudite, hein. Pourtant ils sont sunnites aussi, donc c'est relativement compliqué. Alors Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui s'appelle ACPA, eux, historiquement c'est eux qui étaient qui représentaient les djihadistes sunnites du coin, ils sont pris de court hein, par l'État islamique, mais ils continuent d'être relativement actifs et relativement dangereux, parce qu'ils font régulièrement des attentats, notamment contre l'armée. Donc on est face aujourd'hui à une guerre civile quand même qui a commencé il y a un petit moment au sein du Yémen avec l'intervention donc de l'Iran qui a toujours soutenu cette milice et aujourd'hui cette intervention très très forte hein, militairement de l'Arabie Saoudite. Ben, on fera le point plus tard, mais pour l'instant la situation semble très très mal partie. C'est encore à moi ?
Je pense.
Ah oui. Alors, toujours dans cette rubrique autour des choses en lien avec la religion, on va aux Philippines. Donc, Philippines, archipel à très grande majorité catholique, interdit aujourd'hui encore le divorce. Et une nouvelle enquête a été réalisée par Social Weather Stations qui demande donc à des sondés de répondre à cette question. Est-ce que vous êtes pour ou contre le divorce pour les couples qui sont séparés depuis un certain temps et dans lequel il n'y a aucun espoir de réconciliation ? On y va doucement quand même. Hein. Et ça, aujourd'hui, 60% des sondés ont répondu positivement. C'est un progrès puisque en 2011 c'était 50% et en 2005 c'était 43%. Donc aujourd'hui il y a 60% de la population, si le sondage est à peu près juste, qui est pour la légalisation du droit au divorce. Alors, dans les faits, historiquement, si on regarde, aujourd'hui le mariage c'est toujours un truc considéré comme un engagement à vie. Il y a même des lois qui condamnent l'adultère. Une épouse prise dans une liaison extra-conjugale et qui passe devant la justice risque 6 ans de prison. Un mari 4 ans, bah oui, il y a toujours cette différence homme-femme. Hein. La femme prend quand même 2 ans de plus. Alors cette loi elle est assez peu appliquée, mais elle existe quand même. L'avortement est toujours interdit, le mariage entre les personnes du même sexe est toujours interdit. Enfin, voilà, ça reste un pays de tradition chrétienne, la catholique très très forte, très à droite, très conservatrice, et ça évolue assez peu. Sauf que il y a certains élus qui essayent de faire évoluer les choses. C'est le cas de la députée Emerantia de Jesus. Oui, elle nous s'appelle comme ça, un pays catholique. Et Emerantia de Jesus, qui se sert de ce sondage pour essayer de faire bouger les choses. Elle a déposé, avec d'autres, un projet de loi sur la légalisation du divorce, il y a plusieurs années. Mais le Parlement, pour l'instant, a refusé d'examiner ce projet de loi. Alors, elle n'a pas beaucoup d'espoir, mais elle pense quand même que ce nouveau sondage, ça va dans le bon sens. Même si elle sait que le président actuel des Philippines, Benigno Aquino, n'en a rien à faire. Il est ni pour ni contre, il dit c'est pas ma priorité, lui il est célibataire, ça lui... Bon, a priori il gouverne bizarrement, quand ça ne concerne pas, il ne fait pas avancer les choses. Donc voilà. Alors, il y a quand même des possibilités de divorcer aujourd'hui aux Philippines, sauf que c'est très très compliqué, il faut passer devant la justice, déjà la séparation des biens c'est un truc très très compliqué, et surtout, faut faire annuler le mariage. Donc rendre invalide le contrat de mariage, ça c'est très très difficile. Ou alors faut faire reconnaître un des deux époux comme étant dans une incapacité psychologique. Alors on imagine bien les hommes qui sont quand même majoritaires, qui sont dans un état machiste, hein, arrivent de temps en temps à se débarrasser comme ça de leur femme. Hein, par contre dans l'autre sens ça semble beaucoup plus difficile en tout cas, et la situation reste très très compliquée. Mais si on fait le bilan quand même, les Philippines progressent. Il y a une loi qui est passée en 2012 qui prévoit la gratuité des moyens de contraception et la mise en place de cours d'éducation sexuelle à l'école. L'Église, qui est très très forte, s'y est opposée. Elle n'a pas gagné. Le dernier recours de l'Église, c'était en 2014 et la Cour suprême a débouté. Donc ça veut dire que ça progresse. Donc voilà, ce sondage montre que c'est rentré quand même pas mal dans les mœurs. Il reste à transcrire en droit pour les Philippines et les Philippins d'avoir le droit de divorcer. C'est encore à moi, je reste... une grosse expo aux États-Unis d'Amérique, à Washington, dans la bibliothèque du Congrès, autour de la caricature, du dessin, caricature aux États-Unis, depuis le début des États-Unis, donc la phase de colonisation récente après l'arrivée de Christophe Colomb. Et donc il y a la chargée un peu de cette exposition, Sarah Doc, qui a répondu à plein de questions, qui a expliqué dans quel cadre se faisait cette exposition sur la caricature américaine, notamment en parlant de Herb Bloch, qui est un des plus célèbres dessinateurs caricaturistes américains, qui est décédé aujourd'hui, qui est décédé en 2001, il avait 91 ans. Et elle réexplique un petit peu cette histoire de la caricature en expliquant par exemple que ces caricaturistes, notamment Herb Bloch, ont fait tomber des gouvernements quand même. Le Watergate a été beaucoup mis en image par ses dessinateurs. Nixon en est tombé. Lui, il a fait aussi beaucoup de choses sur la crise des missiles à Cuba, les problèmes avec Lyndon Johnson aussi, et donc la guerre du Vietnam. Il y a une grosse histoire comme ça, des caricaturistes et de leur implication dans la vie politique américaine. D'ailleurs, elle rappelle, Sarah Doc, que le mot « maccartisme », vous savez, cette période où, de chasse à tous les gens de gauche qui étaient qualifiés de communistes, a été inventée par ce dessinateur caricaturiste, Herb Bloch. Mais elle rappelle aussi qu'aux États-Unis, la liberté s'arrête à la religion. Et que ce monsieur Herb Bloch, qui a fait qui a fait 274 caricatures du Watergate, il n'en a fait aucune contre la religion. Elle explique qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible aux États-Unis de faire des caricatures qui dénigrent la religion et qui disent on est contre la religion. Elle a un exemple, une femme qui a fait ça et qui est aujourd'hui obligée de se cacher. Donc il y a toute cette histoire un peu bizarre de la grande liberté américaine qui est quand même limitée dès que ça touche à la religion, quelle que soit la religion d'ailleurs. Alors même s'il y a quelques contre-exemples qu'elle explique, par exemple, c'est Pat Oliphant qui a fait un dessin, c'est à l'époque où Michael Jackson était accusé de pédophilie, en même temps que l'Église américaine avait des affaires aussi de prêtres, de pasteurs pédophiles. Et on y voit donc dans ce dessin le chanteur devant une église d'où sortent des enfants de chœur et des prêtres qui disent « Ah, on dirait que Michael Jackson veut rentrer dans la prêtrise ». Assez drôle. Et ben ça s'est passé. C'est passé parce que ça critiquait le fait d'être pédophile et qu'il y ait des liens avec la religion, mais ça disait pas là on n'aime pas la religion. Hein. Donc ça c'est la limite de l'acceptabilité. Donc voilà ce qu'elle explique, ce qui est assez intéressant de découvrir les caricaturistes américains. Alors si vous avez l'occasion de partir en vacances aux États-Unis, vous allez à Washington, cette expo a l'air très très bien, c'est quand même plus de 200 ans d'histoire de la caricature du dessin caricaturiste américain.
Alors moi j'ai choisi de vous parler de deux femmes, deux auteurs ce soir. On va commencer par Zenupriya Dalla, auteure sud-africaine, dont je crois aussi Laurent, tu voulais parler ce soir. C'était la semaine dernière, mercredi dernier, elle a été agressée et frappée à coups de briques. On va vous raconter pourquoi. Alors elle vient de publier son premier roman qui s'appelle What About Mira. C'est l'histoire de l'émancipation d'une femme qui échappe à un mariage forcé. Alors c'est une affaire qui est racontée par le patron de la maison d'édition Penguin Random House en Afrique du Sud, Steve Connolly pour vous donner son nom. Alors il raconte sur internet. Ça commence d'abord tout ça dans le cadre d'un festival. Zenupriya Dalla intervient dans une école, prend la parole, des élèves lui demandent quel est son écrivain préféré et elle déclare Salman Rushdie.
Oui, alors Salman Rushdie, donc c'est en 89 condamné pour les versets sataniques, oui. Pour blasphème, qui a une fatwa, et c'est mal vu dans un pays comme l'Afrique du Sud. Qui est un pays d'ailleurs essentiellement catholique,
alors,
chrétien.
Il y a des élèves et des enseignants, hein, les deux, ouais. Qui ont quitté la salle. Là-dessus, elle était déjà un petit peu quand même embêtée par la situation. Et le lendemain, l'affaire prend une autre tournure, puisque ces trois hommes qui l'agressent dans la rue sortent de leur voiture, l'agressent dans la rue, lui mettent un couteau sous la gorge et la frappent au visage, donc avec les fameuses briques, et la traitent de pute de Rushdie, hein, tant qu'à faire, autant y aller carrément. Alors elle a porté plainte, elle se laisse pas faire, une enquête a été ouverte par la police. Mais la galère s'arrête pas là, puisque maintenant ça se passe sur Internet, où on l'accuse d'avoir voulu attirer l'attention pour mieux vendre son roman, donc elle se serait fait tabasser à coups de briques pour faire un coup de pub, hein. C'est ça un peu ce qu'on raconte en ce moment. Alors elle a réagi par un tweet où elle explique en anglais, ce qui donne en français: être frappé au visage à coups de briques et être tuméfié à vie n'est certainement pas une façon de vendre un livre, il doit être lu pour ce qu'il est. Ça, oui. C'était donc cette semaine, c'était dimanche, cette réaction.
c'est intéressant de voir que Salman Rushdie, plus de 20 ans après les versets sataniques, quand on dit son nom, tout le monde associe forcément cet auteur à ce livre-là. Il a écrit plein de livres, c'est un très très grand écrivain, Salman Rushdie, et non, systématiquement, quand on dit qu'on aime un livre de ce gars-là, c'est qu'on on aime les versets sataniques, et qui n'est pas un livre blasphématoire. Enfin, je veux dire, il ne critique pas l'islam dans les versets sataniques, c'est juste une fiction qui a été mal perçue par certains intégristes musulmans, et par l'Iran notamment, hein, puisque c'est l'ayatollah Khomeini qui a fait cette fatwa. Mais ça reste bizarre quand même d'associer ce grand écrivain à un seul de ses livres. Et c'est certainement d'ailleurs pas pour ce livre-là qu'elle l'a dit.
Il a réagi très rapidement, lui aussi sur Internet, évidemment pour la soutenir. Il y a pas que lui, hein, il y a l'association des écrivains Pen International qui a réagi aussi. Beaucoup d'auteurs, d'écrivains, d'essayistes en Afrique du Sud ont réagi. Bon, voilà, j'avais déjà envie de vous parler de Zénith Priadala. C'était aussi la semaine dernière, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de Joumana Haddad. C'est une athée féministe. Alors, pour vous rappeler, Joumana Haddad, qui c'est, vous la connaissez certainement pour son essai « J'ai tué Scheherazade, confession d'une femme arabe en colère ». Elle a écrit aussi un autre essai qui s'appelle « Superman en arabe, est arabe », excusez-moi. Elle dénonce le patriarcat dans le monde arabe, dans les trois religions monothéistes. Elle est aussi rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle « Jassat ». Je n'ai pas d'accent, excusez-moi. Donc ça veut dire corps en français. C'est un trimestriel qui est édité à Beyrouth depuis 2008. On trouve beaucoup d'articles de sujets sur le corps de la femme, la nudité, l'homosexualité. C'est une revue qui est interdite dans plusieurs pays arabes, mais c'est la première fois qu'on lui interdit de rentrer dans un pays puisqu'elle n'a pas le droit de rentrer dans le royaume de Bahreïn. Non. Joumana Haddad, elle devait donner une conférence le 6 avril prochain à Manama, dans le cadre du Printemps de la Culture. Alors elle explique. J'ai été invitée il y a un mois par la ministre de la Culture elle-même pour un événement autour de la poésie. Mais dès lors que l'événement a été annoncé il y a 3 ou 4 jours, j'ai été l'objet d'une campagne sur Twitter à l'aide d'un hashtag indiquant « Les athées ne sont pas les bienvenus à Bahreïn ». Je sais également que mon attachement à prôner l'égalité homme-femme n'a pas simplifié les choses et on m'a enfin reproché de défendre les droits des homosexuels. Tout cela a fait boule de neige. Des députés islamistes s'y sont mis. Finalement, le Premier ministre a fini par capituler et la ministre de la Culture m'a appelé pour m'informer que j'étais interdite d'entrer à Bahreïn. Alors, les fameux députés islamistes, c'est le principal parti salafiste du pays, hein, Halla Salah, qui a protesté, le mot est faible, hein, certaine virulence quand même dans le lobbying contre la venue de Joumana Haddad. Alors, pourquoi ? Pour provocation flagrante contre la religion de Dieu. C'est ce que le parti a déclaré. Donc elle n'ira pas à ce fameux printemps de la culture. Elle restera ailleurs, au Liban. Elle continuera à se balader, hein, parce que heureusement, c'était la première fois. On espère bien que ce sera la dernière fois qu'elle soit interdite d'entrer dans un pays.
Même si le Liban, c'est le pays le plus tolérant du coin, être athée et reste difficile au Liban et ne peut pas être assumé, hein, parce que c'est pas. On doit toujours choisir une religion au Liban. On change de sujet cette fois-ci et on passe du côté des lois sécuritaires de Big Brother, de la surveillance des libertés individuelles. Alors je vais commencer par l'info du jour quand même, qui n'a rien à voir avec tout ça. Enfin, un petit peu si quand même, c'est le crash de l'Airbus A320 là, qui est tombé dans les Alpes française. Et aujourd'hui, l'info, c'est que le copilote qui était seul à bord se serait enfermé, se serait peut-être suicidé. En tout cas, c'est lui qui a fait vraisemblablement tomber de lui-même l'avion.
Seul dans le cockpit, pas seul à bord.
Voilà. Oui, seul, malheureusement, oui, pas seul à bord. Mais l'information qui quand même surgit de tout ça, c'est qu'il s'est enfermé parce que il y a les nouvelles lois sécuritaires sur les avions depuis le 11 septembre 2001 et les attentats aux États-Unis. Et donc, à cause de ça, quand le pilote est sorti, eh ben, il pouvait plus rentrer dedans. Donc c'est vraiment une conséquence, je pense qu'ils n'avaient pas imaginé, de ces dispositifs sécuritaires qu'on met partout et qui restreignent la liberté. Alors certes, les défenseurs de ce système diront « Ah ben oui, mais grâce à ça, on a empêché des futurs terroristes de rentrer dans les cockpits. » Ben là, il y en a 150 qui sont morts à cause de ça. Donc je ne sais pas s'ils sont capables de faire le bilan positif, négatif. En tout cas, le bilan négatif, on l'a déjà, il y a 150 morts à cause de cette mesure de sécurité. qui a peut-être protégé plus qu'elle n'a tué, mais nous n'avons pas les chiffres. Et ils l'ont pas non plus. Mais on va parler des dérives sécuritaires en France maintenant, avec des choses qui se mettent en place, et enfin ça bouge, dirais-je. Puisque nous avons Privacy International, Amnesty International, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, la Ligue des Droits de l'Homme, Reporters sans Frontières et plein d'autres, qui ont fait part, je cite, de leur vive inquiétude face au pouvoir de surveillance accru dont devraient bénéficier les agences de renseignement en France, comme le prévoit le projet de loi qui a été transféré au Parlement vendredi dernier et qui va passer en vitesse accélérée. Ils font tout pour que ça soit peu médiatisé et que ça passe très très vite. Et là, c'est droite, gauche, extrême droite, tout le monde est d'accord pour faire passer ces lois, pas l'extrême gauche, hein, ces lois liberticides. Donc cette nouvelle loi prévoit que les agences de renseignement françaises, les espions, l'État, seront autorisées à pirater les ordinateurs et autres appareils, pourront espionner les communications de toute personne, peut-être s'ils ont été en contact par hasard ou pas avec une personne suspecte, mais grosso modo, il n'y a pas de règles très précises. Surtout que ils n'auront aucun compte à rendre et que la justice n'interviendra jamais dans leurs décisions, leur choix d'espionner telle ou telle personne. Donc on peut avoir de vives inquiétudes hein, par rapport à ces propositions de loi qui visent à installer donc des technologies de surveillance directement chez les fournisseurs d'accès, d'ailleurs qui se rebellent aussi un petit peu à Internet, notamment dans les entreprises de communication, afin d'analyser toutes les activités sur Internet grâce à des petits programmes, des petits algorithmes développés par les espions du gouvernement. Donc, ça va énormément diminuer la liberté des internautes, la vie privée des internautes va disparaître, et ça va entraver énormément la liberté d'expression. Alors, ce projet de loi donne en fait tous les pouvoirs, quasiment, au Premier ministre, dans la mesure où c'est le Premier ministre lui-même qui sera autorisé, qui donnera l'autorisation de toutes ces activités de surveillance, sans intervention de la justice, je le répète. Alors certes, comme d'habitude, pour faire semblant qu'on est quand même en France et qu'on est le pays des droits de l'homme, on crée une commission qui sert à rien, qui s'appellera la Commission nationale étendue pour le contrôle des techniques de renseignement. Mais cette commission, elle fera des recommandations qui n'auront aucun effet contraignant. Donc, elle fera des petits avis comme ça. C'est pas bien d'avoir espionné ce journaliste, ce machin. Voilà. Donc, ça servira vraiment à rien. Comme nous, on a ça sur la vidéosurveillance à Lyon. On a un comité ad hoc là, qui sert à vérifier que ceux qui les vigiles derrière leur ne suivent pas que le potentiel, le mec qu'ils ont repéré, type qui est forcément un délinquant, hein, ou les clodos, etc. Non, donc. Voilà, on sent qu'on bascule quand même du mauvais côté. On a le George Orwell hein, qui est pas loin avec son Big Brother. Donc voilà, ça reste très très inquiétant. Surtout qu'ils vont pouvoir espionner vous, moi, le commun des mortels, mais les journalistes, les syndicalistes, les militants, ceux qui ont des activités qui peuvent embêter l'État. Et ceux qui embêtent l'État, c'est les écolos de la ZAD, c'est les militants qui font des blocages, les grévistes. Voilà. Donc, c'est la porte ouverte à la mise en place d'un système quasi totalitaire. Le gros risque étant que le jour où, parce que là, ils jouent là-dessus, ils disent, ben attendez, on est le Parti Socialiste, on est de gauche, si on fait passer de ces lois-là, on va pas aller jusqu'au bout de leur utilisation. Sauf que quand l'extrême droite sera au pouvoir, ils auront tous les outils pour tout contrôler. Donc le risque, il ne faut jamais le laisser passer, ces pouvoirs-là sont inutiles hein, dans la lutte contre les dérives terroristes telles que l'appel Valls et ses amis. Donc voilà. Alors la pire des notions quand même qui va être dans ce projet de loi, c'est la notion de piratage, puisque tout le monde condamne tout le temps le piratage informatique, sauf que là, l'État, à travers ses agents secrets, aura le droit de pirater les ordinateurs, d'aller y voir dedans, d'aller faire ce qu'ils veulent dedans. Et le pire du pire, parce qu'il y a encore pire qu'Internet, parce qu'on pourra se passer d'Internet et faire autrement, il y a ces fameux capteurs qui sont déjà un peu présents partout, à travers les sociétés de communication, notamment qui gèrent les téléphones portables et les smartphones, les capteurs IMSI, et ils auront le droit de récupérer le positionnement de toutes les personnes, partout en France, à condition d'avoir un téléphone portable ou un smartphone dans la poche. Donc là, c'est vraiment la porte ouverte à une surveillance généralisée de la population. Alors, si on se rappelle, pour terminer par une petite boutade, pour quelles raisons ils font ça ? Ils font ça parce que suite à une pseudo-enquête biaisée, j'en avais parlé il y a quelques semaines, qui dit que 90% des djihadistes français qui sont partis à l'étranger ont été recrutés grâce à Internet. On va contrôler Internet. Enfin, on suit ce genre de règles. On peut dire sans se tromper que 90% de ces djihadistes qui sont partis faire la guerre en Syrie étaient montés dans une voiture. Alors ils vont faire quoi ? Interdire les voitures, espionner les voitures, mettre des mouchards partout ? Non, tout ça ne sont que des prétextes pour surveiller les populations. On se sert de la lutte antiterroriste parce que c'est la lutte à la mode. Et effectivement, on ne va pas plus loin que ça dans la lutte antiterroriste. On fait un petit peu ce qu'il faut pour que le public soit rassuré et qu'il vote moins FN, mais il vote FM quand même. Et donc voilà, ces mesures vont malheureusement sûrement passer en grande partie, sauf si la mobilisation se développe.
Alors moi, je propose qu'on sculpture un petit coup maintenant.
Ouais, ça nous fera oublier ce monde horrible.
Exactement. Culturons-nous. Alors, ce
avec
soir...
Fleur Pellerin.
Oui, notre ministre de la Culture. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que ça a des conséquences jusqu'à là, aujourd'hui, 10 jours après, et puis ça va nous permettre de reparler de cette belle charte. Nous allons y venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, il s'est passé ce qui se passe avec Madame Pellerin, c'est-à-dire que partout où elle va, elle prend des photos, et puis elle les met sur ses comptes Twitter et Instagram, hein, et donc c'est comme ça tout le temps. Hein. C'est la jeunesse, il paraît. C'est du renouveau hein, au ministère de la Culture. Ah bah oui, quand même, Pellerin, elle est plutôt jeune, oui, oui, oui. Non mais c'est vrai qu'on a eu tellement l'habitude d'avoir du vieux croûteux.
Oui, c'est ça.
Non, lève-toi de la tête, ça fait déjà quelques temps que on a féminisé et rajeuni un petit peu un ministère, hein, c'est pas souvent, donc il faut quand même le noter. Alors, donc, Madame Pellerin se balade beaucoup et va à l'inauguration de l'exposition Bonnard peindre l'Arcadie, excusez-moi, au musée d'Orsay. Donc à Paris, c'était lundi 16 mars dernier, et là elle prend deux photographies qu'elle poste sur ses fameux comptes Instagram et Twitter, et quelques réactions se font sentir assez rapidement. Alors il faut dire qu'elle est suivie par 220 000 internautes sur Twitter et 3 000 sur Instagram, un truc dans le genre à peu près, ouais. Hein, c'est pas mal. Alors il y a beaucoup de professionnels, hein, c'est normal aussi, dans le secteur de la culture, on suit ce que Madame la Ministre peut bien faire et peut bien dire. Après elle a aussi des fans apparemment. Et donc on lui fait remarquer que bah, elle prend des photos alors elle a pas le droit.
Ben oui, parce que si nous on prend des photos au musée d'Orsay, je pense qu'on se fait vite engueuler quand même. Hein.
Alors le truc, c'est qu'on a un peu tous zappé ces trucs-là. Hein. Je vous rappelle que comme il y a eu un changement de ministre, il y a des choses qui se sont un peu passées dans ce ministère. Mais il y a une charte qui existe et qui s'appelle Tous photographes et qui nous permet, dans les plus grandes institutions muséales de France, de prendre des photos. Sauf que il y avait.
C'est pas passé dans les musées encore.
Alors il y avait un musée. Alors on va venir sur ce qui se passe à Lyon. Sauf que le musée d'Orsay refusait d'appliquer la charte jusqu'à présent. Donc ça restait interdit. Ça l'était depuis déjà un petit moment puisque le musée d'Orsay a connu une grande série de travaux et de rénovations de 2009 à 2011. Et au moment de ces travaux, pour favoriser l'accès dans les salles qui avaient donc été réduites, hein, puisque ben, beaucoup des salles avaient été fermées pour rénovation, les photos avaient été interdites pour permettre une meilleure circulation tout simplement dans des endroits réduits. Et puis l'interdiction avait perdurait par confort hein, finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, suite à ces remarques d'internautes, Madame Pellerin, tendance, tweet, je ne fais qu'appliquer la charte tous photographes du ministère de la Culture. Et bon, dans ton mec.
Mais pas la règle du musée quand même.
Et ben alors ce qui fait que ça, c'était donc le lundi, réaction le mardi et mercredi matin, une note interne du musée d'Orsay stipulait. Le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie a pris la décision de lever l'interdiction de photographier dans les espaces des deux musées.
Donc ça a été utile ce qu'elle a fait finalement.
Tout à fait. Le site internet a lui aussi tout de suite été mis à jour hein, puisqu'on y retrouve maintenant avec précision ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire puisqu'il y a certaines choses hein, qui restent interdites. On ne peut pas mettre le flash, comme au musée du Louvre, on peut pas utiliser, excusez-moi, ces fameuses perches à selfie, on peut pas mettre de trépied, il y a des restrictions, on peut pas être en groupe, enfin il se passe plein de choses. Voilà, ça faisait quand même 4 ans qu'il y avait un groupe d'activistes, parce que c'était le cas, qui prenait des photos en cachette au sein du musée d'Orsay pour faire changer les choses. C'est comme ça qu'on en est venu à cette charte qui a été validée cet été, l'été des précédents, 2014. C'est parce que depuis 2012, il y avait une commission, une réflexion sur la question suite à ces activistes qui prenaient des photos en cachette et qui ensuite les diffusaient sur Internet. Ça avait fait quand même beaucoup d'histoire, toute cette affaire.
Du coup, là, c'est un peu par hasard qu'elle a pris sans le savoir et qu'elle a fait bouger les choses.
Ouais, parce que d'un seul coup, ça arrive. Alors moi, j'ai été retrouvée sur le site du ministère de la Culture. Ils nous ont fait pourtant un joli PDF. Alors c'est plein de couleurs. Il y a 5 articles sur cette charte. Et à chaque fois, il y a une partie destinée aux visiteurs et une partie destinée au musée. Par exemple, l'article 1 dit « Dès son arrivée, le visiteur désactive son flash et range les accessoires, notamment les bras télescopiques, de ses appareils mobiles, afin de ne pas gêner les autres visiteurs lorsqu'il photographie ou filme. » Ça, c'est l'article 1, ça paraît assez facile. Et du côté musée, ça donne des pictogrammes compréhensibles de tous les publics, sont installés tout au long du parcours, favorisant un confort de visite partagée. Bon, je vais pas vous faire les 100 articles, là, vous avez un peu compris comment ça va se dérouler. Voilà, donc ça a réactivé finalement une charte. Alors je me suis demandé à Lyon, et alors on en est où? Alors sur le musée des Beaux-Arts de Lyon, je suis allée en voir deux. Musée des Beaux-Arts de Lyon, musée d'art contemporain de Lyon. Sur le musée des Beaux-Arts de Lyon, c'est très clair, il suffit de cliquer dans la page info pratique, on suit le lien, et là il y a le mode d'emploi du musée. On nous explique les œuvres d'art sont uniques et fragiles, elles ont traversé les siècles, elles doivent être conservées pour les générations futures. Les toucher c'est embêtant, et donc on nous demande de ne pas utiliser un flash, tout simplement dans la liste des restrictions, de pas manger, pas boire, pas fumer, ça me paraît presque un petit peu logique. Ça paraît assez simple. Pour le musée d'art contemporain, sur le site internet, là c'est plus compliqué. Parce que alors ça y est pas là tout de suite comme ça, il faut aller trouver le truc où il y a marqué FAC. Mais alors ça c'est tout en bas de la page et c'est pas facile à trouver. Et au 15e rang, a-t-on le droit de photographier les œuvres présentées? En principe, oui, dans le cas contraire cela est indiqué. Typique du musée d'art contemporain de Lyon. Soyons le plus bref, le plus synthétique et ne parlons surtout pas trop à nos visiteurs. Ça serait inintéressant, restons un petit peu loin, comme ça, la pédant. Donc voilà, tous les musées n'ont évidemment encore pas tout à fait la même réaction. Pour finir, je vous rappellerai juste que même quand on prend des croquis, il y a aussi des règles dans les musées. Il y a beaucoup de règles dans les musées, on les connaît en fait la plupart du temps pas du tout, mais cette affaire au moins de photos pour Internet a fait beaucoup causer quand même ces derniers temps.
Un petit mot rapide sur une info bizarre. On ne s'y attendait pas. Il y a un fort taux de cancer dans les prisons palestiniennes, notamment certaines. Et en fait, il y a une association qui s'est posé des questions sur le pourquoi du comment de ces cancers. Et en fait, il s'avère que certaines des prisons se situent sur des sites de produits radioactifs, notamment dans le désert du Negev, ou proches du réacteur nucléaire de Dimona. Et donc, en fait, on a parqué, mis en prison, les Palestiniens dans des endroits pourris, radioactifs. Donc voilà, alors on connaît déjà leurs conditions de vie misérables de ces prisonniers, et puis il y en a toujours plus. Rien qu'au mois de février, 300 civils palestiniens ont été arrêtés par l'armée israélienne dans des arrestations illégales, puisque c'était pas du tout dans le territoire israélien, et ils vont être mis dans des prisons israéliennes, dont une partie, voilà, ont des forts taux de radiation. Donc il y a une association de défense des prisonniers palestiniens qui s'appelle USAM, qui essaye de faire sortir le sujet et de faire que ça se passe mieux, parce qu'ils ont vraiment des forts taux de cancer. Pour l'instant, il y a une quinzaine de Palestiniens qui ont été diagnostiqués avec des cancers. Donc voilà, c'était juste pour signaler que on ne s'attend pas tout à fait à ça, et dans le non-respect de certains êtres humains, l'État d'Israël va quand même assez loin, moi je trouve.
Oui, moi je voulais vous parler du Marginella, c'est un navire poubelle qui se balade, c'est l'association Robin Desbois qui nous raconte ça. Vous pouvez retrouver leur communiqué sur leur site internet, le communiqué qui a été publié lundi ou mardi. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Ils nous racontent que le Marginella est donc parti se balader. On ne sait pas bien où il va, à vrai dire. Alors, c'est plus un bateau, c'est un machin qui tente de flotter encore. C'est une poubelle, hein, vraiment. Ce qu'ont peur les écologistes, tous confondus, hein, je crois, c'est que le machin se dézingue au milieu de la mer. C'est-à-dire qu'il se délite et qu'il coule. C'est un tonnier de pavillon russe qui était immobilisé au port de Cherbourg depuis 2007. Il s'était retrouvé à Cherbourg parce qu'il y avait eu deux incendies à bord. C'est vraiment une vraie poubelle. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est une autre poubelle qui est venue le chercher. C'est le Serval. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un nom qu'on avait déjà entendu. C'est un remorqueur, qui a été construit en 1977, qui est donc venu chercher une poubelle. Ce Serval a été inspecté en janvier dernier en Pologne. Et il y a eu 11 déficiences qui ont été relevées lors de ce contrôle. En 2007, il avait été détenu au Danemark parce que dessus, les contrôles avaient montré 23 déficience. Donc voilà, c'est une poubelle qui vient chercher une poubelle. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, personne n'est sûr de sa destination. Donc Romain Desbois, ils disent le mieux la Belgique, le pire la Lituanie, parce qu'ils sont vraiment pas sûrs que cet équipage-là peut vraiment aller très très loin. En plus de ça, il faudrait rappeler que c'est des bateaux sur lesquels il y a des équipages. Sur le Marginella, il y a 25 marins qui sont pas payés. C'est aussi pour ça que le bateau a été laissé à l'abandon. Donc ils délitent de partout, c'est ce que je disais. Donc à chaque fois, ces situations-là, c'est des situations qui sont humaines, sociales, écologie, enfin, c'est vraiment un vrai problème global. Et là, voilà, on a une nouvelle situation d'une poubelle flottante qui est passée pas très loin, hein, puisque là, mardi, elle était aux côtes, au large des côtes de la Normandie, hein, une histoire de peut-être pouvoir bien saloper une nouvelle fois sur les côtes européennes.
On poursuit dans le nucléaire, cette fois-ci, avec le rendu de la justice sur le procès de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, la LANDRA, qui était assigné par des associations autour du projet de poubelle nucléaire là, à Bure, dans la Meuse. Donc, grosso modo, hein, dans le viseur de ces associations écolo, c'est CIGEO, donc ce site qui serait pour l'instant unique en France, et qui est pour l'instant unique en France, dont le but est de mettre pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, des déchets nucléaires radioactifs. Sauf que ces assos estiment que l'ANDRA a menti sur les sources d'eau chaude sous le lieu de stockage. Alors, en quoi ces sources d'eau chaude vont-elles jouer ? Donc c'est à 500 mètres sous terre, dans une argile qui est soi-disant imperméable, donc ces sources, elles n'ont pas de risque direct sur le stockage. Sauf que, dans l'idée de ce laboratoire qui est devenu un centre de stockage à Bure, c'est de mettre des déchets radioactifs qui représentent à peu près 3% du volume total des déchets radioactifs français, mais 99% de la radioactivité. Donc c'est des déchets très très dangereux, dont certains le sont pendant 1 million d'années. Donc l'idée, c'est de les mettre là-bas dedans, de tout fermer et d'oublier qu'on a mis ça, pour que personne, aucun être humain, aucun être vivant, n'accède à ce site pendant au moins les 100 000 prochaines années. Sauf que face à ça, on est obligé de faire des enquêtes pour voir qu'il n'y ait pas d'intérêt à aller creuser là un jour. Or, il y a une énorme nappe d'eau chaude dessous, et on imagine bien, dans 200 ans, 300 ans, quand la mémoire aura joué son rôle, c'est-à-dire effacer qu'on a mis des déchets radioactifs là, hein, c'est l'estimation des chercheurs, hein, c'est la mémoire, c'est moins de 500 ans, hein, on oublie très vite ce qu'on a fait, ce qu'on a mis au niveau industriel à un certain endroit, les opposants disent, mais attendez, dans 500 ans ou dans 300 ans, ils vont se dire, ah mais il y a une source d'eau chaude, on va s'en servir pour, par exemple, chauffer les maisons, etc. Ils vont creuser et ils vont percer les déchets radioactifs. Donc, c'est pour ça qu'il y a des études là-dessus. L'ANDRA avait menti en disant que c'est un potentiel géothermal banal. Or, il y a eu une contre-étude faite par les opposants, ils ont payé un laboratoire indépendant pour le faire, qui dit que c'est pas du tout banal et qu'il y a un vrai potentiel. Donc c'était ça qui était jugé aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a refusé de prendre acte de la faute commise par l'ANDRA et qui donc déboute les assos écolos. Elles ont décidé de faire appel. Une fois de plus, la justice, quand il y a une faute flagrante, parce que là il y a un vrai mensonge, hein, c'est flagrant, elle décide quand même de protéger l'industrie nucléaire, c'est-à-dire l'État. Je reste dans le nucléaire avec un tout petit mot sur les Suisses. Ah, les Suisses, des fois, ils sont sympas avec le nucléaire. Alors, on va parler de Genève, parce que Genève a décidé que le nucléaire était interdit. Alors, on va me dire, c'est bien chez eux. Ils sont allés très très loin, hein, puisque dans le canton de Genève, il y a quand même beaucoup d'habitants dans le canton de Genève, ils sont à 94% d'électricité d'origine renouvelable. Ça fait rêver. EDF dirait, mais c'est pas possible. Ah, bah si. Alors regardez vers ce qui se passe vers Genève. Bon, bref, ils y arrivent. Sauf que c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils se disent, mais nous, on est contre l'énergie nucléaire. Et ben, on veut pas qu'on ait les défauts et les problèmes et les incidents ou les accidents liés à l'énergie nucléaire. Sauf qu'à 70 km de la ville, la cité de Calvin, il y a Bugey. Vous savez qu'il y a 30 km de Lyon. Alors, les Lyonnais et l'État, Gérard Collomb est pas gêné par Bugey, hein, qui est à 30 km, parce que si ça pète, il pense que ça pètera pas, je pense. De toute façon, il connaît pas le dossier. Mais, les Suisses, eux, qui ont bien étudié le dossier, disent, mais si ça pète, 70 km, c'est pas assez, et on va prendre de la radioactivité en pleine gueule. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont déjà fait plusieurs fois pour d'autres centrales, un recours, pour demander à la France de fermer cette centrale qui est dangereuse en cas d'accident pour eux, alors qu'ils récupèrent même pas l'énergie électrique de la centrale. Ils se disent, non mais vous, c'est quand même dingue que vous ayez mis un truc à côté de notre frontière juste pour, bon, pas juste pour nous embêter, mais qui va nous embêter sans nous demander notre avis. Hein. Et ils ont quelque part quand même grandement raison. Je vois pas pourquoi la France irait polluer potentiellement la Suisse en cas d'accident alors qu'ils avaient rien demandé. Bon, bref, ils sont défendus, la ville de Genève, par Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement, qui est avocate, hein, donc qui est célèbre pour défendre ses causes. Voilà. Il y a peu de chances que ça aboutisse, c'est le Conseil d'État, hein, qui va donner la réponse. Mais le Conseil d'État a toujours pris systématiquement la défense de l'énergie nucléaire. Hein. C'est un outil aussi au service des nucléocrates et de l'État. Donc voilà, mais bon, c'était à signaler quand même. Hein. On se rappelle que dans l'opposition à Crémalville, il y a de nombreuses années, hein, les Suisses s'étaient mobilisés, parce que si la centrale pétait, l'explosion, à Crémalville, hein, c'était le sodium liquide qui était dangereux, le plus dangereux, l'explosion allait jusqu'en Suisse. Voilà, quand on construit des choses comme ça, les dangers sont immenses.
Alors moi, je vais terminer par la journée. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars. Ouais.
Importante, cette journée.
Oui, puisque peut-être que vous avez lu un journal gratuit ce matin en prenant le métro, peut-être que vous les avez tous lus, et vous avez peut-être vu ces pubs pleine page, première journée nationale de l'hôte et de l'hôtesse. Alors moi, je suis allée voir un peu qui organisait ça, parce que ça m'a posé quand même des questions. Alors je suis tombée sur cette entreprise Charleston, leader du marché de l'accueil en France, c'est ce que j'ai pu lire sur leur site internet. Donc ils ont fait un communiqué de presse nous expliquant que c'est la première journée nationale de l'hôte et de l'hôtesse d'accueil décrétée par l'agence Charleston. Ça me fait bien marrer que toutes ces journées qu'on décrète, hein, il y a 365 jours, bientôt on va manquer, hein, il va falloir cumuler les jours où il se passe un truc. Alors on nous explique que ce métier a connu de grandes évolutions qui ont demandé une vraie souplesse à ces experts de l'accueil. C'est vrai qu'au niveau du temps horaire, la précarité de l'emploi, c'est une vraie souplesse. Les métiers de l'emploi souffrent encore d'un grand nombre de préjugés dans la société. Ils sont souvent peu considérés. Ben ça, on est bien d'accord. D'ailleurs, ils sont souvent très mal payés. Et elles sont souvent très mal payées. C'est souvent aussi des femmes. Donc voilà, moi je suis allée voir aussi sur leur Facebook. Hein, le Facebook, c'est juste pour passer leurs annonces d'emploi. Ça semble un peu hypocrite, tout ça. Bon, peut-être qu'ils traitent très bien leurs salariés. J'ai pas eu le temps d'avoir un peu plus d'infos là-dessus. Reste que ça a dû coûter quand même bonbon.
Ouais, ils ont les moyens de gaspiller de l'argent dans des campagnes de pub. Ouais. Pour dire, c'est la journée de l'hôte et de l'hôtesse d'accueil.
Voilà, donc en plus, il ferait bien d'écrire plutôt ça en disant merci de mieux considérer les personnes que vous avez en face de vous, plutôt que simplement mettre des grandes phrases avec des merci. Parce que maintenant, voilà. ça paraît un petit peu léger quand même. Enfin voilà, c'était vraiment une espèce de on a le greenwashing et ben là on a le social washing, c'est un peu ça l'idée.
T'avais un truc vert fluo?
Non, ça va être tout pour moi. Ouais, je m'arrête là.
Alors je vais faire l'agenda, j'ai plein de choses dans l'agenda moi ce soir. Alors on va, enfin aujourd'hui, on va commencer par ce soir justement. À la Griffe, donc ça commence, alors c'est organisé par la Griffe et la FRAPNA, mais ça n'a pas lieu donc à la Griffe, ça a lieu à la Maison Rodanienne de l'Environnement, hein, c'est 32 rue Sainte-Hélène, ça commence dans 6 minutes, ça dure 2 heures. Il y a la projection d'un film qui s'appelle Gabès Labès, ça veut dire tout va bien à Gabès, de Yabib Yaeb, qui parle des modèles de développement sur l'oasis de Gabès, qui est un oasis en Tunisie, le seul oasis qui est sur une côte, hein, donc à côté de la mer. Donc voilà, il parle un petit peu de la vie de ses habitants, leur relation avec l'eau, la pollution de l'eau, de l'air, des terres. C'est autour de l'environnement, forcément, parce que c'est à la Maison Rodanienne de l'Environnement, donc organisée par la Griffe, ce soir, de 20h à 22h. Demain, vendredi, nous avons la conférence de Farik Essak, qui est un militant anti-apartheid, historique, hein, non, il n'y a plus d'apartheid, on est d'accord, sud-africain, mais qui aujourd'hui s'investit dans la contre ce qu'ils appellent l'apartheid israélien. Et donc là, c'est la campagne BDS, la campagne de boycott des produits israéliens fabriqués dans les territoires occupés, qui l'invite, et le collectif 69 Palestine et l'Union juive française pour la paix. C'est demain soir à 19h, une conférence débat rencontre avec ce personnage, ce militant Farik Essak. Ça aura lieu à la Bourse du Travail de Lyon, donc dans l'entrée des syndicats, là, qui est rue de Créqui, au numéro 205. C'est au troisième étage, salle Moissonnier. On passe à samedi. Samedi, manifestation pour le logement, le droit au logement. Il y en a, je crois, plusieurs en France, hein, qui sont organisées. Là, c'est la Lyonnaise, puisque dans 3 jours, hein, le 1er avril, c'est la fin du plan froid. Et donc là, tous les clodos, tous ceux qui sont à la rue, tous ceux qui galèrent pour se loger, ils vont se retrouver dehors. Parce qu'il y aura plus de place en centre d'accueil, enfin en tout cas presque pas. Voilà. Donc pour demander que tout le monde ait le droit d'avoir un toit, de vivre dans des conditions décentes, un appel à la manifestation a été lancé par pas mal d'organisations. En plus, il y a une activité locale, hein, notamment les écoles, hein, qui sont beaucoup mobilisées tout cet hiver contre les enfants qui sont à la rue avec leurs familles, bien évidemment. La manif partira à 15h de la place des Terreaux et ira tout naturellement à l'école Gilbert Dru, qui est un peu l'école emblématique, qui est occupée, hein, depuis 3 mois pour loger des familles SDF. C'est dans le 7e, l'école Gilbert Dru. Donc la manif, c'est 15h. Place des Terreaux ce samedi. Si vous êtes dans le centre-ville, vous pourrez aussi aller faire un tour Place de la République. Il y a un stand qui sera posé par le collectif 69 pour la Palestine pour parler de la bande de Gaza. Ça s'appelle Liberté pour Gaza, Liberté pour la Palestine. Ça commence à 15h, sera toute l'après-midi. C'est essentiellement pour ceux qui se baladent, qui font des courses et qui ont cette vue bizarre, hein, d'aller dans le centre-ville le samedi après-midi. Et qui, si vous croisez ce stand-là, puisque vous avez quelque chose à faire dans le centre-ville ce samedi après-midi, allez voir, il y aura pas mal d'informations. Ce week-end, chose importante aussi, qui a lieu une fois par an, c'est la 16e année, les journées du logiciel libre. Et oui, important. Radio Canu milite, hein, dans son utilisation de Linux tous les jours pour les logiciels libres. Donc c'est l'occasion dans ces journées d'accueillir tout le monde, parce que ça s'adresse aux petits, aux grands, aux pros, aux débutants, et ils vont expliquer comment passer du logiciel pas libre au logiciel libre. Il y a des activités pour les enfants, des jeux, des loisirs numériques pour les petits, les moins petits, les plus grands. Voilà, il y a plein de choses autour de ces 2 journées du logiciel libre qui ont lieu, c'est comme ça depuis déjà un certain nombre d'années, à la salle des Rancy, qui est dans le 3e, 249 rue Vendôme. J'ai pas les horaires, mais ça doit commencer vers 9h ou 10h le matin. Je vous laisse aller voir le site, c'est journée du logiciel libre, c'est jdll.org. Sinon, sur Rebellion, vous avez les infos. De même, je vous laisse aller voir sur Rebellion pour le festival Expulsion Immédiate, qui a lieu du 20 au 28 mars. Il y a plein d'activités, plein de concerts. Il reste 2 jours et les infos sont données au jour le jour. Hein. C'est le festival Intersquat. Et puis, pour terminer, dans les dernières rencontres débats de Terre des Livres, pour le moment, vous savez, j'en parle chaque semaine, il y a une rencontre avec un écrivain, une ou deux. Alors, samedi 28, il y a beaucoup de choses à faire samedi, il faudra choisir. À 15h, quelque chose de très intéressant, un livre qui s'appelle Les Situationnistes, une avant-garde totale. Donc, les Situationnistes, hein, 1950-1972. Je pense qu'il y a beaucoup besoin dans l'extrême gauche aujourd'hui de se replonger dans ce que c'était que les situs un peu. Ça changerait peut-être la donne et le regard et la manière de militer. C'est l'occasion de le faire à Terre des Livres. Donc Terre des Livres, c'est une librairie qui est dans le 3e. Si tu le sais, c'est pas très loin de là où tu travailles, sur la rue où il y a le rectorat dont j'ai perdu le nom. Voilà, bon, bah, vous chercherez la librairie Terre des Livres, j'ai perdu le nom de la rue. Et donc, le livre est écrit par Éric Brun, que nous saluons au passage, puisque c'est l'animateur de l'émission Angle Mort, de dimanche soir à 21h sur la plus rebelle des radios. Il y a une rencontre animée par Robert Bandier, donc auteur de Sociologie du surréalisme. Et puis, toujours à la librairie Terre des Livres, mercredi 1er avril, une lecture comme un chien de Giraud. Voilà, aux éditions Crash. Alors là, c'est plutôt des gens qui ont traîné autour de la scène punk des années, et des squats, des années 80-90. Il est 20h. Oula, on a dépassé de 25 secondes, on s'en excuse.
Alors, salut à vous, hein, caissiers et caissières. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bah ouais, si. Et puis, salut aussi à François. Le chocolat était très bon. On vous laisse tout de suite avec la petite cuillère. C'est parti. Ou presque.
C'est le temps que le CD se lance. Bonne soirée.
Ciao.